La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission spéciale Indépendance. Nous revisitons chaque semaine un épisode de la décolonisation. Comment les Africaines et les Africains l'ont-ils vécu? Comment les grandes figures intellectuelles et politiques du continent se sont-elles battues? Et jusqu'où la France s'est-elle compromise pour maintenir son emprise coloniale? 60 ans après l'année magique, cette fameuse année 60 où 17 pays africains accèdent à la souveraineté nationale, je vous invite au bal des indépendances, au son de nos archives sonores et musicales.
Indépendance, tcha tcha, Kozoumiye, Okipoisa, tcha tcha, Toubakini.
Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur.
La République centrafricaine, c'est la terre de nos aïeux. C'est la tombe de nos pères et de nos mères. C'est tout ce qui nous a donné la vie ou qui nous fait vivre. C'est tout ce que nous aimons.
La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs.
Les voix des leaders de l'indépendance en Afrique centrale, dans la marche du monde. Patrice Lumumba pour la République du Congo, Barthélémy Boganda pour la République centrafricaine, Roubem Oumniobé pour le Cameroun, et j'ajoute Félix Moumié, dont nous n'avons aucun enregistrement. Leur engagement et parfois même leur combat ont enchanté, donné espoir en une Afrique libérée du joug colonial et des grandes puissances occidentales. Et pourtant, entre 1958 et 1961, alors que le bal des indépendances battait son plein au son de l'African Jazz, ces quatre leaders panafricains, symboles vivants de la lutte pour l'émancipation des peuples colonisés, sont assassinés un à un. Pour quelles raisons ont-ils été sacrifiés et par qui? Qu'ont-ils de commun dans leur parcours d'émancipation? Quelle vision du panafricanisme partageaient-ils? Et comment sont-ils devenus des icônes nationales dans leur pays? Autant de questions terrifiantes et néanmoins passionnantes posées par la publication de la thèse de Karine Ramondi. Elle est historienne de l'Afrique dans les relations internationales au XXe siècle. C'est le bal des indépendances dans la marche du monde. Cinquième épisode, leader assassiné de Lumumba à Oumniobé. Bonjour Karine Ramondi et merci de nous accueillir chez vous, à la maison.
Bonjour, je suis ravie.
Une maison où vous conservez sans doute des traces de vos années de recherche sur les leaders assassinés en Afrique centrale, mais aussi dans le monde entier. Est-ce que vous pourriez dire qu'au fond, vous avez mené une enquête historique?
De toute façon, l'histoire est une enquête. Depuis le début, depuis Hérodote, qui considérait ce métier d'historien comme une enquête, il s'agit évidemment ici d'enquêter sur des assassinats qui sont censés ne laisser aucune trace. Et justement, c'est peut-être le paradoxe de ce travail, c'est comment retrouver des traces de ce qui est censé ne pas en laisser.
Mais est-ce qu'on peut parler d'assassinat en ce qui concerne Barthélémy Boganda, puisque officiellement il est mort dans un accident d'avion le 29 mars 1959?
Alors oui, c'est un peu l'originalité du travail que j'ai mené, c'est que je suis partie non pas du postulat qu'il était assassiné, mais j'ai cherché à comprendre pourquoi beaucoup de Centrafricains et beaucoup aussi de citoyens du monde entier continuent et sont persuadés de penser que Boganda a été assassiné et que cet accident d'avion n'est en fait qu'un scénario qui a maquillé cet assassinat. Et l'intérêt pour moi, c'était de partir véritablement de l'histoire des mentalités, de ce que les personnes ressentent en Centrafrique, et de travailler justement cette nouvelle hypothèse de travailler particulièrement sur les rapports de l'accident d'avion.
Alors on peut peut-être préciser tout de suite, Karine Ramondi, que l'assassinat politique, arme redoutable s'il en est au moment des indépendances, n'est pas limité à l'Afrique centrale.
Ah, pas du tout. C'est une pratique qui est non seulement pas limitée à l'Afrique centrale, mais qui n'est pas limitée non plus dans le temps. Elle n'est pas limitée au moment des indépendances, même si c'est vrai que c'est un moment d'accélération de l'histoire et que cette accélération de l'histoire a véritablement favorisé justement des solutions radicales, rapides, à un moment où les puissances coloniales et les deux grandes puissances voulaient véritablement garder le contrôle d'une situation qui était en train de leur échapper.
Karine Ramondi, c'est quand même un sujet super violent que nous allons aborder ensemble tout au long de cette émission. Mais c'est un sujet néanmoins émouvant. Qu'est-ce qui vous touche chez Lumumba, chez Boganda, chez Félix Moumier ou encore chez Ruben Umniobe?
Je crois que foncièrement, ce qui me touche, hein, c'est leur statut d'outsider au départ. Ce sont des hommes qui ont fait un parcours rapide, fulgurant, dans un contexte où ils n'étaient pas voués à faire ce qu'ils ont fait. Et ce qui me touche, c'est sûrement la volonté d'éclairer, la volonté de faire connaître, la volonté de réaliser un travail scientifique qui ne laisse pas place à des interventions ou des interprétations farfelues. C'est véritablement de poser un jalon ou des jalons qui permettront à d'autres historiens de travailler sur ces thématiques passionnantes et quelque part peut-être de contribuer à réparer quelque chose qui semble difficilement aujourd'hui réparable dans le contexte actuel.
Et je me permettrai d'ajouter que vos travaux permettront aussi à nos auditeurs de se réapproprier leur histoire.
La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera quand un noir, on disait tu, parce que les vœux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Cette lutte qui fuit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains.
L'irrévérence de Patrice Lumumba, sans doute le plus radical des leaders d'Afrique centrale, Karine Ramondi, il s'exprime le 30 juin 1960 face au roi des Belges, dont le Congo était la propriété personnelle.
Il n'était pas prévu dans le protocole que Patrice Lumumba prenne la parole en tant que Premier ministre. Seul le président Kasavubu devait le faire. Et il s'empare de la tribune pour un discours qui reste une référence et qui d'ailleurs reste un support intéressant pour travailler avec peut-être les générations dans les lycées. Qu'est-ce que justement la prise en compte d'un destin à un moment clé alors que rien n'est prévu pour ?
Alors justement, le destin de Lumumba n'aurait pas été le destin de Lumumba sans Lumumba, sans la volonté de Lumumba de s'élever et de devenir un évolué. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque ? Parce qu'on vient bien d'entendre le verbe de Lumumba.
Alors, un évolué, dans le Congo belge, prend un autre terme qui est le terme d'immatriculé, qui est un terme encore plus fort.
Donc au Congo, on ne dit pas un évolué, on dit un immatriculé. Ils étaient combien à l'époque ? Parce que je crois qu'ils se comptaient sur les doigts de la main, ceux qui pouvaient justement avoir l'opportunité de pouvoir s'exprimer avec un tel verbe, Karine Ramondi. Et on en revient au niveau d'éducation, justement, décolonisé au Congo belge. Donc, pourquoi Lumumba était-il un immatriculé ?
Il était un immatriculé parce qu'il avait fait ce choix. Il a postulé plusieurs fois pour être immatriculé par les Belges. Et en tant qu'évolué, pour lui, cela lui permettait d'accéder à un certain nombre de fonctions, à un certain nombre de lieux, d'écoles, où il pouvait inscrire éventuellement ses enfants.
Et donc, ça nous conduit justement à cette question de l'éducation de ces pères de l'indépendance, de ces combattants nationalistes. Comment se sont-ils formés intellectuellement ? Comment ont-ils été éduqués ? Sachant qu'à l'époque, les centres du savoir, c'était surtout les missions catholiques, hein, notamment les missions des pères blancs.
Cette éducation, ils la doivent à l'école des missions alors pas seulement catholiques,
oui.
Si on compte les différents cas que nous voyons aujourd'hui,
oui.
Parfois des missions protestantes qui étaient d'ailleurs plus permissives, plus ouvertes.
Alors dans quel cas ?
Dans le cas camerounais.
D'accord.
Et qui offraient une opportunité à ces indigènes, comme on les appelait à l'époque, de se cultiver, alors que d'emblée on leur annonçait que de toute façon ils n'avaient pas les mêmes facultés que les autres, et notamment les blancs.
Et est-ce que vous diriez justement, Karine Ramondi, qu'ils auraient cela en commun, ces quatre leaders nationalistes, indépendantistes, donc Lumumba, Boganda, Félix Moumier et Ruben Umyobe, est-ce qu'ils ont en commun justement cette volonté de s'élever par l'éducation, mais je dirais d'une façon autodidacte presque, à titre personnel ?
Alors oui, ils ont tous en commun une volonté de faire, une volonté de dépasser ce à quoi ils sont assignés. Et c'est ce qui fait la force et qui fait d'ailleurs l'émotion qu'on a à découvrir leur parcours. Par exemple, le plus brillant sûrement des leaders étudiés à l'école, c'est Boganda, qui va à l'école des missions, qui se destine à une carrière de prêtre, d'ecclésiastique.
Il est le premier d'ailleurs...
Le prêtre ubanguien, tout à fait.
Prêtre africain en Ubangui-Chari.
Exactement. Il est d'une érudition telle qu'il impressionne les cadres des missions. Et donc, les cadres des missions font véritablement un véritable effort pour le garder et pouvoir continuer à travailler avec lui.
Alors, ces leaders, justement, donc ont une volonté de faire, vous nous l'avez dit. Vous êtes touchés, justement, par le fait qu'ils ont choisi de s'éduquer dans un contexte où la colonisation ne les incite pas du tout à faire des études et à s'élever intellectuellement. Ils sont tous nationalistes, mais est-ce qu'ils ont tous la même définition du nationalisme ?
Je ne sais pas s'ils ont tous en commun la même définition, dans le sens, je ne sais pas quelle est leur définition du nationalisme. Je crois que pour parler de nationalisme, il faut que la nation existe. Or, elle n'existe pas au moment où ils prennent le pouvoir.
Donc pour vous, ce sont des indépendantistes, des anticolonialistes.
Exactement. À la base, ils ont ce substrat en commun. Et parler de leaders nationalistes, ça voudrait dire que la nation existe. Peut-être des leaders nationistes qui font émerger la nation dans ces colonies en voie d'indépendance.
Et est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ont l'occasion d'échanger sur cette question, puisque vous êtes intéressé à quatre leaders ? qui font partie d'une région qui s'appelle l'Afrique centrale.
Oui, je me suis particulièrement intéressée à ces moments où ils auraient pu se rencontrer et j'ai trouvé un point particulièrement de rencontre qui est la conférence d'Accra en décembre 1958.
Au Ghana.
Au Ghana, exactement. Le seul leader qui n'est pas présent sur les quatre que j'ai étudiés, c'est Barthélemy Boganda. Mais ça s'explique tout à fait correctement par le fait qu'il n'a jamais été attiré par ce type de rencontre. Il n'a jamais cherché véritablement à rentrer dans ce cercle qui gravitait autour de Kwame Nkrumah, le leader ghanéen, celui qui avait pensé justement les transitions vers les indépendances, celui qui avait fait des études à l'étranger et qui représentait véritablement cette figure du grand frère qui allait pouvoir faire comprendre à ces jeunes leaders qu'il recevait en décembre à Accra ce qu'il pensait, comment il pensait mettre en place, on va dire, des projets unitaires.
Alors, projet unitaire, vous avez lâché le mot. Hein. Kwame Nkrumah, c'est cette figure évidemment de l'unité du panafricanisme et cette question du panafricanisme, c'est-à-dire d'une vision d'unité des nations en construction. Elle se pose cruellement au moment des indépendances. Je vous propose d'écouter comment Barthélemy Boganda en parle au micro de Philippe de Crène.
Je crois que le moment est venu justement de vous demander comment la nouvelle République centrafricaine, qui est je crois le nom nouveau auquel nous ne sommes pas encore tous bien habitués, de l'ancien territoire de l'Oubangui-Chari, va s'insérer tout d'abord dans un premier ensemble qui est l'ensemble Afrique équatoriale.
Il est tout de même surprenant que le territoire de l'Oubangui-Chari, connu sous ce nom depuis une cinquantaine d'années, change brusquement d'étiquette et devienne République centrafricaine.
C'est un symbole.
Cela est un symbole, vous avez parfaitement raison, car il y a une cinquantaine d'années, les gouverneurs généraux ont eu soin de diviser l'AIF en plusieurs territoires confiés à un gouverneur. Nous avons le territoire du Moyen Congo, le territoire du Gabon, le territoire de l'Oubangui-Chari et le territoire du Tchad.
Mais ne croyez-vous pas que ça correspondait tout de même à des personnalités assez marquées? Vous venez d'évoquer par exemple le Gabon à un bout, le Tchad à l'autre. Je crois que, d'ailleurs que les problèmes qui se sont posés concernaient surtout la position du Gabon et celle du Tchad. N'est-ce pas? Il y a véritablement une personnalité tchadienne. De même qu'il y a, et c'est là je crois que nous rejoignons le symbole que vous avez choisi, une personnalité centrafricaine, qui est d'ailleurs très large et qui, je crois, déborde l'Oubangui-Chari.
Il est exact que ce découpage correspondait à une certaine personnalité pour certains territoires. Le Gabon, par exemple, est absolument différent du Tchad. Le nord du Tchad est absolument différent du Moyen Congo, mais quand on prend les territoires limitrophes tels que le Moyen Congo et l'Oubangui-Chari, il n'y a absolument pas de personnalité et de démarcation nette. Car moi-même qui vous parle, je suis né congolais, je suis devenu oubangien et aujourd'hui je ne sais plus ce que je suis. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le terme République centrafricaine pour désigner ce pays de l'Oubangui-Chari qui est devenu le mien. Et nous avons l'espoir d'en arriver un jour à faire un grand ensemble avec tout ce territoire qui, en somme, ont toujours été, sinon des mêmes tribus, du moins très voisins.
Ma Barthélémy Boganda, père fondateur charismatique de la République centrafricaine. Il nous explique pourquoi il a choisi de rebaptiser Lubangui Chari en République centrafricaine. Nous sommes le 20 décembre 1958 et Boganda conçoit cette unité africaine comme un espace francophone. Écoutez la suite de son interview en 1958 sur la Radio Nationale Française.
Je crois d'ailleurs que vous rejoignez là une idée qui a été lancée il n'y a pas si longtemps, celui d'une future Afrique latine, une fédération d'une Afrique latine, entendons-nous, d'une Afrique parlant des langues latines, de même qu'il y a une Amérique latine.
Et cette idée a été lancée par moi-même il y a 2 mois au Grand Conseil de Brazzaville, où en tant que président, j'ai été appelé à faire le discours traditionnel dans lequel j'ai exprimé mon espoir de constituer un jour une Afrique française et au-delà et au-dessus, comme vous voudrez, une Afrique latine. Comme vous dites si bien, il existe une Amérique latine. Et cela pour des raisons sentimentales, bien entendu, mais également pour des raisons pratique, car nous avons à craindre des menaces de l'étranger. Le panarabisme est en train de se consolider pour aller à la conquête de l'Afrique. Et si nous, Africains de l'Afrique centrale, si nous ne nous groupons pas pour faire un barrage à ce danger qui nous menace, nous serons bien vite envahis et soumis à un colonialisme pire que celui que nous venons de traverser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que l'Afrique centrale s'unisse et que, unie entre elles, qu'elle nous unisse à la France et à l'Occident. Et il est certain que si nous nous laissons envahir par le panarabisme ou par le communisme, car le danger n'est pas loin, eh bien nous serons coupés de l'Occident, nous deviendrons des satellites de la Ligue arabe ou des satellites du communisme. C'est contre cela que je vais lutter.
Il faut rappeler que nous sommes en 1958, avant l'indépendance, au moment où De Gaulle propose aux colonies de s'émanciper politiquement, mais en même temps de rester dans une communauté française. Et d'ailleurs, Boganda, dans le premier extrait, annonce la couleur, puisqu'il dit « Je ne sais plus ce que je suis ». Karine Ramondi.
Oui, alors « Je ne sais plus ce que je suis », ça fait évidemment référence pour moi immédiatement à tous ces écrits de personnes évoluées, immatriculées, qui quittent un monde pour en rejoindre un autre et qui vivent ce que certains, chers Hamidou Kan, ont qualifié d'aventure ambiguë, ce moment où en fait on perd avec volonté ses repères initiaux pour rentrer dans un monde auquel on n'appartient pas encore véritablement. Je trouve que cette réflexion elle est particulièrement touchante. Je ne sais plus ce que je suis, c'est assez touchant de la part d'un chef d'État ou en passe de lettres d'évoquer justement ce moment d'intimité.
Néanmoins avec une grande conscience d'une nécessaire unité.
Oui, tout à fait. Son projet de grande république centrafricaine ou d'États unis d'Afrique latine est un projet, comme le montre très bien l'archive, qui s'est construit contre le panarabisme, contre le communisme, car on ne peut pas faire le procès à Boganda d'être communiste. C'est un procès qu'on a fait d'ailleurs à tort parfois à Lumumba. Et aussi contre l'Afrique anglo-saxonne. Ça n'est pas dit dans cette archive, mais il y a aussi cette volonté de créer une identité particulière sur ce projet. Et aussi contre le péril jaune, la Chine, qui représente aussi déjà à cette époque une base arrière possibles d'un autre type de communisme.
Ce qui est vraiment intéressant, Karine Ramondi, quand on entend les propos de Boganda, c'est que lui, en tout cas, il s'inscrit dans un périmètre encore plus large qui est celui de la France et de l'Occident. Il le dit très clairement et c'est pas une vision forcément qui est identique à celle notamment des indépendantistes camerounais.
Non, pas du tout. C'est sûr que le projet est complètement différent. Il s'inscrit véritablement dans une volonté de garder des liens avec la France. Il s'inscrit dans une volonté qui est très propre à Boganda aussi, qui est très fier de la civilisation française, des références qu'il mobilise très souvent.
Et au contraire, les Camerounais, eux, s'inscrivent en rupture.
Et oui, tout à fait. Plus en rupture, ça dépend aussi des leaders au sein de l'UPC, ils n'ont pas tous la même appréciation justement de cela. Et cela permet évidemment de se rendre compte que les projets différenciés ont quand même un fond commun qui est la conscience très tôt que vivre seul, être une nation indépendante sera compliqué et qu'il faudra garder véritablement une unité à l'intérieur d'ensembles qui permettront peut-être de vivre plus longtemps en tant que nation.
Nous ne sommes pas contre les Blancs, nous ne sommes pas contre l'Occident, nous ne sommes contre personne, mais uniquement contre ces régimes coloniales, ces régimes d'oppression, d'injustice, d'exploitation mercantile, qui fait la honte de ce 20e siècle de progrès.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivelon.
Et pour vous, Karine Ramondi, c'est Lumumba qui est le plus panafricain de tous ces leaders nationalistes des indépendances en Afrique centrale. Pour quelles raisons ? Et est-ce qu'il serait du coup celui qui est le plus dérangeant face aux anciennes puissances colonisatrices ?
Alors Lumumba est sûrement, oui, le leader le plus panafricain au sens qu'il croit à la collaboration. C'est-à-dire qu'il il aime, on sent, échanger, s'inspirer des autres. Ce qui n'est pas le cas forcément de tous les leaders que j'ai étudiés. Et ce qui fait que Lumumba est particulièrement exposé, c'est qu'il est le premier ministre d'un territoire dont le sous-sol est extrêmement riche. On parle même de scandale géologique minier en parlant des ressources de ce qui est aujourd'hui d'ailleurs toujours vrai pour la RDC. Et c'est évidemment quelqu'un qui est exposé aux convoitises par rapport à la nécessité de garder la main sur ces ressources comme l'uranium qui sont évidemment très importantes dans le contexte de la guerre froide.
Alors vous le montrez dans votre livre, les peuples colonisés dans les années 50, regardez bien sûr ce qui se passait en Indochine, ce qui se passait en Algérie à l'époque, et c'est en quelque sorte dans cette internationale de la lutte que s'inscrit le leader Ruben Umniobe, tel que le décrit son fils Daniel.
Umniobe, son action, ce n'était pas seulement limitée au Cameroun, mais ça allait au-delà, c'était toute l'Afrique centrale et même au-delà. Quand Umniobe ose aller à l'ONU réclamer l'indépendance, s'opposer aux autorités de tutelle, les autres peuples disent « mais si lui le fait, nous aussi on peut le faire ». Donc, pour le gouvernement français, il ne faut pas oublier qu'il y a Dien Bien Phu derrière, il y a Ho Chi Minh derrière, et mon père qu'on appelait d'ailleurs le Ho Chi Minh camerounais. La France ne veut plus vivre la même chose qu'au Vietnam. Il y avait aussi à côté, aussi il ne faut pas oublier l'Algérie. Donc ce qui fait que le Cameroun va servir d'exemple au niveau des massacres. C'est-à-dire qu'on va faire de Umniobe un exemple pour montrer aux autres leaders qui veulent se soulever ou se couturer aux autres. Regardez le sort qu'on a réservé à celui qui était votre modèle. Regardez le sort qu'on lui réserve. Et c'était la répression vis-à-vis de la population, mais d'une sauvagerie que je n'arrive pas à décrire parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis encore sous le coup de l'émotion.
Le témoignage du fils de Ruben Umyobe, Daniel, héritier de la mémoire détruite de son père assassiné le 13 septembre 1958 au Cameroun. Il brosse un portrait de son père dont la mémoire hante les chants populaires au Cameroun. La mémoire des maquisards de l'UPC au Cameroun perdure à travers les chants, un chant bassa. La mémoire de Ruben Umyobe, chantée en bassa sur RFI dans la marche du monde.
Quand mon père a été assassiné le 13 septembre 1958, il y a eu 3 morts. Un des secrétaires de mon père qui s'appelait Yimbak, ma grand-mère et mon père.
Est-ce qu'on sait dans quelles conditions ces assassinats ont été faits?
Le gouvernement français avait mis à prix les têtes des dirigeants de l'UPC et avait réussi à infiltrer les anciens compagnons de mon père, et notamment ceux qui faisaient la liaison entre le maquis et le village. Il y avait des affiches collées partout, on avait promis et des millions à des personnes qui indiqueraient le grand maquis, c'est-à-dire le maquis de Umyobe. Le 13 septembre, au matin, une patrouille composée de militaires africains et français a surpris le maquis de mon père, et avec un accompagnateur, parce que c'est l'accompagnateur qui a indiqué, qui a reconnu mon père. Mon père représentait, on lui avait donné le terme de Mpodol, qui veut dire un avocat. Le porte-parole du peuple, parce que son ampleur, sa personnalité a dépassé le cadre de l'UPC. Si bien que quand il se rendait à l'ONU, les responsables des associations de femmes et des étudiants lui donnaient le mandat d'aller donc prêcher la cause du Cameroun au niveau du mandat. Donc c'était tout un symbole. Les symboles étaient tels que beaucoup de personnes jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre que mon père a été tué. Quand on a annoncé la mort, l'assassinat de mon père, son corps a été enterré sans les formalités d'usage. Si bien qu'aujourd'hui, au niveau de la famille, au niveau de la population, et pour nous, Umyobe n'est pas encore enterré.
Pour nous, Umyobe n'est pas encore enterré, c'est ce que confiait son fils Daniel au micro de France Inter en 2001. Karine Ramondi, c'est une parole forte, c'est une parole émouvante qui exprime plusieurs dimensions que vous questionnez dans votre livre au sujet justement de ces assassinats de ces leaders d'Afrique centrale.
Oui, cela renvoie évidemment à cette histoire du corps. Quand un leader est gênant, on essaie de l'éliminer, et quand il est éliminé, on essaie également d'éliminer son corps afin qu'il n'y ait pas de lieu ou qu'il n'y ait plus de lieu pour se recueillir, qui pourrait devenir un lieu de symbole et de rassemblement. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Ruben Umyobe, de Moumié et également de Patrice Lumumba.
Lumumba, c'est peut-être l'exemple le plus incroyable.
Oui, c'est l'exemple le plus radical, puisque son corps a été dissous dans la soude afin qu'il n'y ait véritablement plus aucune trace et que cette trace s'évapore. Mais ce que l'on peut constater, c'est que justement, à travers ce que vous avez diffusé, les chants populaires, ce que véritablement le peuple a en mémoire et les populations, il y a la possibilité de continuer, ou en tous les cas de faire continuer à exister la mémoire de ceux qu'on a voulu absolument enfouir.
Alors, en ce qui concerne le Camerounais Félix Moumié, c'est à cause d'un empoisonnement, lui, à la mort au rein, qu'il succombe. En tout cas, c'est ainsi que le journal de la radio française présente l'enquête sur sa mort le 2 novembre 1960.
À Genève, enquête difficile sur la tentative d'empoisonnement dont a été victime le leader camerounais Félix Moumié.
Celui-ci est toujours dans le coma, à peine en est-il sorti hier pour quelques instants. On sait maintenant que Félix Moumié a été empoisonné, tout vulgairement, avec de la mort au rat, probablement au cours d'un repas qu'il fit avec son secrétaire, africain comme lui, et une mystérieuse jeune femme brune, laquelle s'est depuis littéralement volatilisée. Elle aurait, semble-t-il, gagné Paris en emportant ce que Félix Moumié appelait sa valise diplomatique, une sacoche bourrée de documents politiques. Les enquêteurs pensent donc, comme d'ailleurs la victime elle-même, que la cause de l'empoisonnement est toute politique.
On se croirait dans un roman d'espionnage, sauf que c'est bien la réalité morbide de l'assassinat de Félix Moumié. Le leader camerounais succombe le lendemain de la diffusion de cette information, le 3 novembre 1960. Et le mot est lâché, assassinat politique, Karine Ramondi. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion d'assassinat politique que vous travaillez tout au long de votre livre, qui est la publication de votre thèse, donc sur ces leaders assassinés en Afrique centrale.
Bah, l'assassinat politique, c'est une action qui est perpétrée par des hommes de l'ombre pour des gouvernements qui ne peuvent pas le faire officiellement et qui ont donc recours à des actions clandestines afin de se débarrasser des gêneurs.
Alors dans le cas par exemple de Félix Moumié, vous avez pu établir justement la chaîne des responsabilités.
Oui, tout à fait. Celui qui empoisonne Félix Moumié n'est autre que Bechtel, William Bechtel, qui est un honorable correspondant du SDEC, donc des agences secrets français, qui se charge de la traque, d'approcher sa victime, et puis qui passe à l'action le 15 octobre 1960 dans un restaurant, le Plat d'Argent, à Genève, et qui est censé réussir rapidement cet empoisonnement, sauf que Moumié va agoniser, puisque vous venez de le dire, du 15 octobre au 3 novembre, il est hospitalisé et il meurt à petit feu. Ce qui rend les choses plus compliquées pour les commanditaires, puisqu'il faut faire vite disparaître les preuves, ce qui ne pourra pas être effectué. Et c'est là où je rejoins ce que j'évoquais en introduction de cette émission, c'est les traces qui ne sont pas envisagées au départ et qui sont quand même réelles et qui font donc l'objet véritablement d'un travail que l'historien peut faire dans ces petits interstices que laissent ces actions clandestines, mais qui finalement sont particulièrement éclairantes.
Alors on veut des exemples justement de ces archives qui peuvent prouver qu'il y a eu des ordres donnés par des États.
Alors, par exemple, il y a tous ces documents qui ont été saisis à son domicile très peu de temps après la tentative d'empoisonnement au Chênebourg, qui révèlent des carbones qui retracent avec plus ou moins de clarté les scénarios envisagés pour mettre fin au jour de Félix Moumié. On peut aussi évoquer tous ces tentatives d'approche qui sont faites par Bechtel avant le soir de l'empoisonnement, qui laissent des notes de frais, qui montrent le pistage, qui montrent aussi que Bechtel était sur d'autres dossiers à l'époque, notamment sur des dossiers qui concernaient des militants du FLN. Donc un véritable professionnel de la mise à mort.
Et à l'époque, donc, on est évidemment sous la présidence du général de Gaulle. Son homme de main, dont le nom est parfois connu de nos auditeurs, hein, c'est Jacques Foccart. Toutes ces actions sont illégales, elles sont clandestines, elles sont cachées, elles ne sont pas assumées hein, par l'État français, mais néanmoins, on peut retrouver donc au fil des archives le fil hein, de l'ordre donné jusqu'à son exécution. Et ce qui est passionnant aussi, c'est que cette volonté de destruction, vous l'écrivez, elle conduit à un résultat inverse. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que l'assassinat politique, au fond, devient une fabrique de personnages mythiques, de personnages iconiques ?
Oui, c'est exactement ça. Et c'est là, je trouve, la leçon d'histoire. C'est que quand on veut maîtriser le cours de l'histoire, on se retrouve finalement avec des phénomènes complètement inverses.
Mais pourquoi ? Comment ça se passe ?
Ça se passe parce que je pense que ces leaders ont porté la voix de personnes qui n'avaient pas voix au chapitre. et que cette voix est une voix qui gronde. C'est une voix dans laquelle aujourd'hui encore certains peuvent s'identifier et qui fait qu'on ne peut pas enfouir des voix. On peut penser que se débarrasser de ceux qui la portent font que le message va disparaître avec eux, mais cette voix, elle continue, elle sonne, elle résonne. Et d'ailleurs, les magnifiques moments d'archives que vous venez de nous passer le montrent bien. Ces voix n'ont pas pris une ride. Et on pourrait penser d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a peut-être besoin de nouveaux leaders qui sont capables de porter avec autant d'acuité ce que les autres ne peuvent pas dire haut et fort.
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé. Notre gouvernement a refusé, notre parlement et notre peuple. Nous préférons la liberté dans la pauvreté, dans la dignité, plutôt que la richesse, dans l'esclavage, dans la servitude et dans l'indignité.
Alors n'oublions pas que vous avez sous-titré votre livre donc Leader assassiné 1958-1961 entre construction nationale et régulation des relations internationales. Alors comment pouvez-vous affirmer que, par exemple, l'assassinat politique de Lumumba a régulé les relations internationales ? Expliquez-nous ça.
Si on reste dans une approche métropole-colonie concernant l'assassinat de Patrice Lumumba, comme ça a été longtemps le cas, entre la Belgique et la Jeune République du Congo, nous pouvons voir en effet des commanditaires et ceux qui passent à l'action. Ceux qui passent à l'action... C'est les dirigeants du Katanga qui fait sécession contre Lumumba dès le début de l'indépendance. Je pense par exemple à Moïse Tshombe ou Godefroy Munungo. Mais je pense que cette vision est un peu réductrice, même si on sait qu'il y avait présent le 17 janvier 1961, lors de la mort de Lumumba, des gendarmes katangais, mais aussi des officiers belges, que l'on sait que des dirigeants politiques comme Daspre Monon de Linden ou Pierre Vigny ont quelque part laissé faire cet assassinat, ou en tous les cas l'ont fortement désiré. Je pense que si on reste dans cette vision, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, il y a toute une chaîne de responsabilités qu'on ne voit pas.
Donc vous voulez démonter cette idée reçue selon laquelle ce sont des règlements de compte quasi tribaux ?
Ah, complètement. Là, c'est peut-être une strate d'explication, mais ce n'est absolument pas la seule. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'est de voir que c'est Gilbert Pongo et Mobutu qui favorisent le transfert de Lumumba au Katanga. Si Mobutu fait cela, c'est parce qu'il est soutenu par la CIA. Pourquoi la CIA se mêle des affaires de la République du Congo ? Parce qu'elle y a des intérêts propres avec notamment les mines d'uranium. Pourquoi les Français ne veulent pas que Lumumba reste à la tête de l'État de la République du Congo ? Parce qu'ils ne veulent pas d'un phénomène de contagion au Congo-Brazzaville où Fulbert Youlou vient d'être placé à la tête de l'État totalement tutoré par les hommes de Focard. Et pourquoi est-ce que Lumumba gêne autant ? Eh bien parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait un phénomène de contagion dans la fédération de la Rhodésie et que des personnalités comme le haut commissaire, qui n'est autre que Lord Allport, ne souhaitent pas que Lumumba reste à la tête de la République du Congo, car il ne veut pas de contagion vers l'Afrique australe et il souhaite garder des interlocuteurs, comme il dit, valables au Katanga.
Et ce qui est extrêmement frappant, c'est que vous avez cité par exemple le nom de Mobutu, qui est très très proche de Lumumba en réalité. Ils ont partagé beaucoup de choses, voire des idées. Et au fond, Mobutu va devenir l'homme de l'Occident. Et Mobutu, lui, va rester au pouvoir très tranquillement pendant des années et des années.
Oui, ce qui frappe, c'est... comment un leader qui a été choisi de façon démocratique, comme Lumumba, reste finalement que quelques mois à la tête de l'État naissant, et comment finalement celui qui usurpe ce pouvoir va y rester de façon extrêmement durable, et va même jusqu'à valoriser la mémoire de Lumumba au milieu des années 60 et se servir de cette icône comme d'un faire-valoir.
Alors justement, j'aimerais que l'on puisse conclure hein, sur cette dimension mémorielle, puisque cette année, nous célébrons l'année 60, l'année magique des indépendances africaines, où 17 pays dont la RDC accède à leur souveraineté nationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet impact hein, de ces assassinats politiques, sur ces constructions nationales? On parle bien sûr de la RDC, mais aussi du Cameroun ou de la Centrafrique.
Je pense que ce qui prévaut, c'est le sentiment de la perte. Ce sentiment de la perte qui est perdre les références d'une histoire qui commence, que ces références soient niées, qu'elles soient balayées, qu'elles soient honnies, crée, je pense, dès le départ, un déficit de confiance et un déficit de substrat politique dont beaucoup de ces pays ont du mal à se remettre. Et je crois que c'est un phénomène qui est particulièrement important aujourd'hui, encore, prégnant.
Et d'ailleurs, Karine Ramoundi, c'est d'autant plus important que nos auditeurs, que les citoyens des pays africains anciennement colonisés puissent avoir accès aujourd'hui à cette mémoire et à leur histoire.
Oui, c'est l'une des décisions, évidemment, de publier chez l'Harmattan, collection africaine ou étude africaine, c'est évidemment pouvoir offrir la possibilité, dans le réseau de librairies dont ils disposent en Afrique, de mettre ce livre à disposition des publics africains.
Merci, merci beaucoup. Karine Ramoundi, je recommande vivement votre livre, Leader assassiné en Afrique centrale 1958-1961. C'est aux éditions l'Harmattan, vous l'avez rappelé. Leader assassiné de Lumumba à Oumiobé. C'était l'épisode numéro 5 de notre série Le bal des indépendances, une émission réalisée par Sophie Janin et Richard Rifono avec les archives de l'INA et de RFI. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine danse. Ce sera dimanche prochain pour la mémoire algérienne de Benjamin Stora. N'hésitez pas à réagir sur nos pages Facebook et Twitter, podcaster. Cette émission, c'est la vôtre. Orben balele ni munu wongi Sogolwe mabinenge likere wongi Loyem binenge likere wongi Ngeni yesri yibe yo Basori nigil nibe yo Loyes biwele nikere wongi Onge ba biwele ni munu wongi Loye siho Inyonyo ninyo Loye siho Iho ni mao Ilong yes minenge likere wongi Papire din chomo kiki pitong bimo Inge mwe mwa kibi perne ni munu wongi Baby well ni biski wongi Hatangong emle long Ingeni yoki wo Mumye abi well ni biski wongi Ni bispana din kirne ni kere wongi Ilong yesi ho Inyonyo ninyo Ilong yesi ho Eba.